La presse nous apprenait en fin de semaine que la DPJ imposait des normes très strictes aux intervenants en centre jeunesse, tellement strictes que certains parlent même de quotas. Et là, il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour réclamer une modernisation de la direction de la protection de la jeunesse. Mylène Moisan nous rapporte régulièrement des histoires en lien avec la DPJ dans le soleil. On la joint à l'instant. Bonjour Mylène.
Bonjour, et pas juste des pas belles. Des fois, je fais des belles histoires, mais effectivement, il y en a des pas belles et il faut en parler.
Ben c'est ça. J'ai l'impression que, généralement, là, dans les médias, quand on parle de la DPJ, c'est pour dénoncer des situations qui ont été mal gérées. As-tu l'impression que la direction a mauvaise réputation et est-ce que c'est mérité?
Est-ce qu'elle a mauvaise réputation? Je dirais que les textes que j'écris, par exemple, sur des choses qui fonctionnent moins bien ont plus d'écho ou sont plus relayés que les textes que j'écris sur des choses qui vont bien. Mm-hmm. C'est peut-être un penchant naturel des gens de s'indigner plus de ce genre de trucs-là. Mais effectivement, tu sais, je pense que publiquement, quand on parle de la DPJ, les gens ont vraiment l'impression que c'est une machine hermétique, lourde, qui fait pas dans la dentelle, là, disons. Là.
Tu résumais la situation très bien dans un article en juillet dernier. La DPJ, c'est capable du meilleur comme du pire, parce que quand on vient à l'essence même de la loi de la protection de la jeunesse, là, les objectifs sont nobles, Mylène, on peut pas s'obstiner là-dessus. Là.
Absolument, c'est magnifique. Si tout était en concordance avec la loi, ça serait vraiment fabuleux et les enfants seraient toujours très bien soignés, très bien pris en main. Mais force est de constater que malheureusement, là, ça fonctionne pas toujours comme c'est supposé fonctionner. Et ça, je remarque aussi que lorsque je soulève des problèmes, lorsque je parle de situations qui fonctionnent pas, les gens, évidemment, les gens qui travaillent à l'intérieur du système se sentent toujours vraiment attaqué, puis je les comprends parce que la majorité des gens qui travaillent dans ces organisations-là le font avec leur cœur puis pour le bien-être des enfants, mais je pense pas qu'il faille ne pas en parler parce que il faut que ça change. Quand il y a des problèmes, je pense qu'il faut les exposer pour que ça change. Si on n'en parle pas, puis c'est pas parce qu'on parle d'un problème que on va dire que tout ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut quand même faire attention à ça. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut pas se gêner là pour dénoncer des situations qui sont inacceptables. Là. Même si la DPJ va jamais les commenter, mais je pense qu'il faut avoir le courage là de lever le voile sur ça.
Tu parles de l'importance des intervenants, Mylène, sans dire qu'ils ont un 30 sous puis un élastique pour faire des miracles. Il y a une certaine pression qui est mise sur eux. Puis quand ils parlent de quotas, là, ça montre qu'on essaye des fois de passer des dossiers à vitesse grand V pour satisfaire les gestionnaires puis satisfaire la demande parce que les signalements sont en augmentation.
Mais quota ou pas, justement, les intervenants de la DPJ, ça se multiplie pas. Sont un nombre X. Là. J'ai essayé de le trouver aujourd'hui, j'ai pas réussi à le trouver, mais parce que c'est tout segmenté par région. Mm-hmm. Mais au Québec, là, il y a eu 96 014 de signalements l'année dernière. Donc, à peu près 263 par jour. C'est énorme. Donc, quota ou pas, je veux dire, ces signalements-là doivent être traités et ça prend des gens. Et plus que de signalements, si on a le même nombre de personnes, on peut pas se compter d'histoire. Là. Les gens passent moins de temps pour chaque signalement.
Ouais. Je suis pas familier avec la mécanique d'un signalement, Mylène. Je sais que tous les cas sont différents, là, mais il y a quand même une procédure, il y a une codification. Comment ça fonctionne exactement?
Ben essentiellement l'appel entre dans un centre d'appel où il y a des intervenants qui travaillent. Moi j'ai déjà eu la chance, le privilège de passer une journée dans un de ces centres-là. Donc les appels, les gens prennent les appels et là ils prennent le signalement. Et il y a une première évaluation qui est faite à partir de là. Donc, la personne qui prend l'appel peut appeler certaines personnes, faire certaines démarches pour voir un peu la gravité de la situation ou même si c'est une situation réelle ou non. Mm-hmm. Donc, à partir de ce moment-là, si le signalement franchit cette étape-là, le dossier va être confié à une intervenante qui va aller évaluer sur le terrain la situation. Donc là, j'imagine que c'est là qu'on dit que le signalement est retenu. Et là, il y aura des démarches le plus poussées. Donc on va se présenter sur les lieux, on va rencontrer les gens. Il y a des critères à respecter qui ne sont pas toujours, par exemple, rencontrer les parents séparément quand il est question de violence conjugale. Donc là, c'est à ce moment-là où la première évaluation l'évaluation est faite. Et c'est vraiment là la clé de l'évaluation. C'est là que tout se joue habituellement. Et malheureusement, souvent, les intervenants qui sont dans cette première ligne-là sont celles ou ceux qui ont moins d'expérience. Il y a beaucoup de roulements aussi dans ces employés-là. Ouais. Moi, c'est un ex-directeur de la DPJ qui m'avait exposé ça. Donc, lui, il trouvait ça déplorable, justement, que ce travail-là qui est très critique, donc la première évaluation, soit souvent faite par des gens qui ont peu d'expérience.
Exact, puis les conséquences sont grandes, Mylène, quand tu y penses, là, comme une famille affectée, il y a un signalement, il y a un intervenant qui est dépêché sur place, il faut qu'il rencontre les gens. Si tu tombes sur un bon intervenant, si tu tombes sur un moins bon intervenant ou moins expérimenté, les conséquences peuvent être assez immenses.
Absolument. Mais c'est ça, comme je te dis, tout se joue là. Si le courant passe entre les parents et l'intervenant, ça peut très, très bien finir. Mais en général, ça finit très bien. Moi, j'ai une de mes amies qui a eu un signalement de DPJ qui a été fait, une histoire d'ex, là, puis de garde partagée. Okay. Mais l'intervenante qui s'est présentée au domicile de la famille a tout de suite vu que ça se passait bien, qu'il n'y avait pas de problème, donc a fermé le dossier. Mais si jamais l'intervenante arrive, peut-être moins le courant passe moins entre les parents, ça peut être plein de choses. Donc si cette évaluation-là est faite et peut-être pas exacte ou conforme à la réalité, ben là, à partir de ce moment-là, c'est là que ça se met à déraper. Parce que on accorde beaucoup d'importance à cette évaluation-là et tout part de là. Donc si ça part croche, ça continue croche.
C'est ça, la révision de cas. S'il y a quelque chose que je retiens de tes derniers articles, puis j'en relisais un de l'été dernier, tu racontais l'histoire de François puis Sylvie. Eux, on leur a retiré leurs deux filles en 2015. Tout ça partait d'une commission scolaire qui était pas très chaude à l'idée qu'ils choisissent de faire l'école à la maison. T'sais, la raison apparaît banale, mais quand ils ont voulu faire une révision de cas, là, on s'est rendu compte que la DPJ, là, ça pouvait être difficile, ça pouvait être encrassé, ils pouvaient être boqués pratiquement, là.
Oui, il y a un entêtement ou un, c'est vraiment difficile là, de corriger le tir. Puis moi, en fait, c'est vraiment ce que je dénonce ou ce que je reproche. Tu sais, c'est pas tant qu'il y a des erreurs qui soient faites parce que c'est normal. C'est des humains qui sont dans des situations extrêmement compliquées. Je veux dire, moi, pour évaluer, tu arrives dans une famille, t'as un signalement, t'as très peu d'informations, et là, tu dois faire la part des choses. C'est extrêmement compliqué comme travail. Mais moi, je pense qu'il faudrait, si une erreur qui est commise au début ou n'importe où dans le processus, il faudrait être capable de corriger le tir. Et c'est là que je trouve que la DPJ arrive pas à le faire. Mm-hmm. Quand ils font une erreur, là, ils s'enfoncent dans l'erreur, puis ils vont même essayer là, de justifier leur erreur. Et là, ça prend des proportions complètement hallucinantes.
Là, il y a le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique. Eux ont ce qu'on appelle un défenseur des droits d'enfant. Est-ce que c'est une genre de structure parallèle qui pourrait réviser justement les cas d'une DPJ comme celle qu'on a au Québec?
Ben, ça pourrait. C'est sûr qu'on a la protection là, des droits de la personne et de la jeunesse, qui est quand même une structure dont le mandat se rapproche de ça. Mais bon, l'organisme n'a pas beaucoup de moyens et la DPJ, c'est quand même une organisation qui est très hermétique. Donc, c'est même difficile là, pour ce genre d'organisme-là. Ils ont quand même accès à certaines choses, mais ils pourraient pas, je crois, remonter vraiment à l'origine, justement, aller eux-mêmes rencontrer la famille, okay, des parents, voir vraiment si l'évaluation a bien été faite au début. Parce que on va souvent, les gens de la DPJ vont souvent me dire ou nous dire que c'est pas la DPJ qui prend les décisions, particulièrement dans le retrait d'enfants, c'est le tribunal. Donc, quand ce genre de décision-là est vraiment prise par un juge, donc la DPJ va soumettre son plan à un juge et le juge va, et le parent va expliquer oui ou non, et c'est le juge qui tranche. Donc, à partir de ce moment-là, mais si le juge tranche à partir d'informations qui sont pas exactes de la DPJ ou de représentations qui peuvent être carrément mensongères, ben là, à partir du moment où on a le jugement du tribunal, ça devient coulé dans le béton. Mm-hmm. Et c'est là, dans le fond, le cas de François et Sylvie, là, c'est un peu ça, il s'est cristallisé, et d'autres cas aussi, là, j'ai vraiment reçu beaucoup de cas depuis que j'ai parlé de celui-là, mais souvent, c'est ça, c'est que les cas se cristallisent très tôt, et les parents sont campés dans le rôle du méchant, et la DPJ va tout faire pour que les parents se rangent à l'évaluation de la DPJ. Mm-hmm. Mais des fois, les parents ont raison. Puis des fois, la DPJ a tort. Mais ça, c'est à peu près impossible à faire admettre.
C'est ça. Avant de l'admettre, c'est pas mal compliqué. Là, on a une hausse de signalement. On a des intervenants qui se disent sous pression. Et on a aussi un nouveau gouvernement. Il y en a qui parlent de crise de la DPJ. Es-tu confiante que cette crise-là pourrait être susceptible de mener à des solutions, Mylène?
Ben, je suis contente qu'on parle de la DPJ puis justement là des problèmes qui sont assez criants. Je pense que le timing est bon. Le nouveau ministre Carman a l'air vraiment décidé à vouloir faire quelque chose. Moi, j'ai eu des échos. Là, je travaille avec quelqu'un qui est en contact avec des gens au gouvernement. Et ça semble vouloir bouger. Est-ce que ça va être une réforme en profondeur? Moi, je pense qu'on pourrait même peut-être faire une genre de commission d'enquête, faire un vrai état des lieux pour qu'on puisse... ça n'a jamais vraiment été fait de savoir qu'est-ce qui fonctionne pas. Si on avait des parents qui pouvaient venir raconter ce qu'ils ont vécu. Oui. Parce qu'il y a vraiment des choses qui fonctionnent pas. Puis je pense que c'est pas en rafistolant à droite et à gauche, puis en faisant des petits ajustements, là, je pense qu'on serait rendu là à revoir là, carrément le rôle de la protection de la jeunesse, justement parce que le nombre de signalements est toujours en hausse. Et là, on dirait que c'était comme en train d'imploser là, toute cette affaire-là.
C'est des milliers d'enfants et des milliers de familles qui peuvent sauter à cause de ça. Puis on est en droit de se poser quelques questions. Merci, Mylène, pour ces quelques minutes.
Merci à toi.
À bientôt, Mylène Moisin, elle est chroniqueuse au Soleil. On entend DPJ, là, elle racontait justement qu'il y avait des amis qui avaient eu la visite de la DPJ. Imagine le branle-bas de combat quand le signalement est fait et que tu considères ne pas avoir de tort comme famille, là. Et là, ben, t'es un peu à la merci, un peu pas mal à la merci de l'intervenant ou de l'intervenante qui est dépêchée chez vous. Tu dois avoir hâte que ça passe puis d'avoir la décision qui est positive à ton égard, là. Ça va avoir chaud.
Au 25-226, les témoignages rentrent. Il y en a un qui est intéressant, notamment, qui dit « Le pire de la DPJ, c'est qu'il change sans cesse d'intervenant. Dans notre cas, il y a eu 7 intervenantes en 3 ans. Comment tu veux vraiment faire un bon suivi? Comment tu veux évaluer les parents? Comment tu veux être en contrôle de la situation, une situation qui évolue quand la personne la change constamment? » C'est un autre problème, il y en a plein. Il y a des gens qui disent qu'au niveau de l'évaluation, on devrait permettre aux travailleurs sociaux qui sont pas nécessairement membres de l'ordre de travailler à la DPJ. Il y en a d'autres qui disent, ben non, quand tu fais une crise du cœur, tu veux voir un cardiologue, pas un omnipraticien. Je l'aille pas, moi, l'idée de Mylène Moisin de dire, ben regarde, ce serait peut-être le temps d'arrêter le train, là, même si c'est fatigant d'arrêter un train, mais de l'arrêter... de faire des vérifications complètes, puis après ça, de leur partir.
Oui, mais là,
il va retrouver sa vitesse de croisière.
Là, ils sont dans le quotidien par-dessus la tête. Là, en fin de semaine, dans la presse, on disait qu'il y a 3000 noms d'enfants qui sont sur la liste d'attente pour qu'on sache qu'est-ce qu'on fait avec eux. Là. Dans la région de Québec, c'est 114. Des cas qui sont stand-by, puis là, il faut attitrer un intervenant, puis qu'on voit, OK, quelles sont les conséquences qu'il va y avoir dans cette famille-là. 154 en Chaudière-Appalaches.
Si tu fais pas un ménage qui est efficace, ces cas-là se règlent, tu sais, je veux dire, ces cas-là vont continuer de comporter des erreurs. Et l'autre affaire aussi qui est importante à retenir dans le témoignage de Mylène Moisin, c'est que c'est sûr qu'on remarque toujours les situations problématiques, puis il y en a trop à la DPJ, ça c'est un fait. Mais les gens qui sont là en ce moment puis qui y travaillent, c'est vraiment des gens de cœur. C'est vraiment des gens qui se démènent, qui rapportent du travail à la maison. C'est d'autant plus triste parce que ces gens-là ont pas les conditions optimales pour faire leur travail du mieux qu'ils peuvent, mais c'est pour ça qu'il y a un problème qui vient des deux côtés. Il y a un problème dans le système, puis les gens qui y œuvrent, eux autres, ben ils ont bien beau être qualifiés puis mettre du cœur à l'ouvrage, ben t'arrives pas à tirer le maximum d'eux autres. T'sais.
Mais il faut tout le temps étirer l'élastique. On peut pas être proactif au Québec. Tu sais, prends l'exemple là, des résidences pour personnes âgées. Okay? On a eu le décès de la mère de Gilles Duceppe, 93 ans. Hier, j'entendais la ministre Blais dire
mais ça, c'est que ça
on est prêt
comme...
à revoir les certifications et tout. Faut tout le temps qu'il y ait quoi qui pète. On n'est pas capable de s'asseoir puis se dire, OK, là, il y a des problèmes. Quels sont-ils? Puis comment on les règle maintenant? Faut tout le temps dire, oh non, il est arrivé ça. Faut absolument trouver une solution. Regardez, ça va pas bien, mais c'est pas la cata encore.
Je suis pas certain, moi, que la comparaison avec l'histoire du CHSLD, ben pas du CHSLD, mais de la mère de Gilles Duceppe qui
non,
était dans une résidence.
Non, c'est juste une question d'attitude puis de proactif.
Ouais, mais c'est que ça a toutes les apparences d'une situation où dans cette résidence-là, il y avait un problème au niveau de la sécurité, puis il y a peut-être eu aussi de la négligence par-dessus ça. En apparence, parce que l'enquête est pas faite, là. Dans le cas de la DPJ, c'est parce que les situations problématiques s'accumulent, là. là, ça commence à faire une méchante grosse pile de situations problématiques, là. Alors, c'est d'autant plus important que là, on commence à s'allumer lumière pour qu'on essaie de régler le problème.
Ah ouais. Puis c'est des vies avec lesquelles on joue actuellement. Puis le système est sous pression. Donc, on pourra suivre ça avec le ministre Carman au cours des prochains mois.
Le retour du 93. On revient.